Bonjour à tous. Eh bien, je vous propose qu'on démarre sans plus tarder à accueillir nos intervenants. Et on va laisser la parole à Yann Marchand, qui est donc dramaturge, qui s'intéresse beaucoup à l'initiation à la philosophie, puisqu'il collabore régulièrement avec les éditions Les Petits Platons, pour lesquels il a publié déjà 5 ouvrages. Donc c'est un éditeur de philosophie pour la jeunesse. Et puis il intervient dans de nombreux contextes, des contextes très variés, auprès de publics très variés, y compris de jeunes enfants, et aussi bien dans des maisons pour tous, dans des écoles, que dans des médiathèques, et notamment dans le réseau des médiathèques de Brest. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle on a souhaité lui demander de démarrer cette matinée pour poser notre sujet d'un point de vue philosophique, en lui demandant de spécialement traiter du thème de la frontière. Je lui laisse.
Bonjour à tous. Donc voilà, c'est moi le philosophe, d'où la chemise blanche. Alors d'habitude, je ne suis pas tout seul à parler, les gens collaborent avec moi, mais on va faire une exception pour aujourd'hui. Et la question sur laquelle je me suis penché, c'est à quoi servent les frontières ? Et après, vous me direz si c'est une question philosophique ou pas. Puisqu'au départ, on peut dire une frontière, au fond, ne sert à rien. C'est une donnée géographique, une réalité physique. Ce sont les fleuves, les montagnes, les mers. Mais dans l'idée de frontière, la frontière, c'est ce qui fait front. D'ailleurs, c'est un terme militaire. Et ce qui fait front, c'est ce que l'on rend infranchissable ou difficilement franchissable. C'est ce que l'on ouvre, c'est ce que l'on ferme. Donc en fait, la frontière n'est pas une réalité physique. La frontière, c'est la matérialisation d'une idée. Et de quelle idée parle-t-on ? Eh bien, lorsque l'on installe une frontière, c'est pour générer une séparation. Oui, pour l'instant, je ne me mouille pas trop. Mais une séparation entre quoi et quoi ? Une séparation entre l'extérieur et l'intérieur. La séparation entre un en-deçà et une séparation entre moi. Alors il faut essayer de comprendre pourquoi nous, les êtres humains, nous avons généré cette idée de séparation entre deux espaces, deux domaines, et des relations entre moi et les autres. Alors on va procéder en 3 temps, et les 3 temps que je vais vous proposer, c'est pas une hiérarchie, hein, c'est pas une gradation, c'est 3 relations à la séparation, ou 3 relations aux frontières. La première lecture ou la première idée de la séparation, ça pourrait être la suivante. Je crée une séparation entre un au-deçà et un au-delà, entre moi et vous, pour me constituer moi. Je reprends un petit peu l'idée de quelqu'un comme Nietzsche qui dirait « Qu'est-ce qui fait que je me sens moi-même ? » À vrai dire, si je dois me définir, c'est assez complexe, c'est-à-dire positivement, si je dois trouver les mots qui me déterminent. Par contre, ce que je peux facilement faire, c'est de manière tout à fait arbitraire, eh bien, vous déterminez vous symboliquement et dire des choses de vous. Par exemple, la Confédération des bibliothécaires ou médiathécaires, ou qu'en sais-je. Et je peux trouver de façon arbitraire des qualifications que le médiathécaire a une fonction d'inutilité dans une société. Moi, je ne suis pas médiathécaire. Donc, la logique est simplement formelle, eh bien, je ne suis pas quelqu'un d'inutile. Donc, je suis quelqu'un d'utile. Et toutes les personnes qui adhéreront avec moi à ce discours sur les médiathécaires, eh bien, pourront se déterminer autour d'une valeur commune. Et on pourra dire, nous les philosophes, nous avons une utilité parce que nous ne sommes pas médiathécaires. De manière un peu plus dramatique, si j'arrive à déterminer dans une, par exemple, les femmes, et que j'affuble les femmes d'une détermination, par exemple celui de la faiblesse, moi, je ne suis pas une femme, donc je suis fort. Et je peux faire ceci avec toutes les minorités reconnues dans une société. Ou je peux faire ceci avec toutes les populations extérieures à celles auquel je m'identifie. C'est-à-dire que pour faire un nous, un collectif, eh bien, j'agis par forme d'exclusion. C'est ce qui est à l'œuvre dans les discriminations, mais aussi dans les types de harcèlement. Donc, une des premières réalités de la frontière, c'est que ça permet de générer cette séparation excluante et dire que certaines personnes ne font pas partie de l'humanité pour telle ou telle raison, que je qualifierais de barbare. Et si j'arrive à trouver le barbare, terroriste de Daesh ou autre, eh bien moi, je me reprends comme être civilisé, à moindre frais, trop facile. Et comme ça, nous pouvons nous confier dans la certitude d'être des êtres bien, honnêtes. C'est le premier rapport à la séparation. Il y a un autre rapport à la séparation qui n'est pas exclusif de l'autre, mais qui sont corrélés, qu'on pourrait appeler un rapport d'acculturation. Alors, je crois qu'il y a un sociologue qui interviendra tout à l'heure, donc je parle sous... Comme Lévi-Strauss nous demande d'imaginer une petite scène dans Race et Histoire, une scène de jeu. Imaginez que nous devions tous faire ici des séries et que chacun est sur son poste de jeu. Qui aurait le plus de chances de gagner ? Celui qui reste dans son coin à essayer de tirer les séries ou ceux qui mutualiseraient les résultats pour obtenir la série ? Eh bien, s'il y a davantage de joueurs, il y a davantage de numéros et davantage de probabilités de tirer une série. C'est-à-dire que, individuellement, nous gagnons peut-être moins, mais collectivement, nous gagnons à tous les coups. De l'acculturation, c'est finalement de prendre le pari que se mettre à l'écoute de l'autre peut me donner éventuellement des avantages culturels ou sociétaux. Alors, il peut y avoir une lecture très vulgaire de ce texte, qui ne l'est pas, et de dire qu'il y a quand même un calcul d'intérêt dans cette acculturation. C'est-à-dire que je prends l'autre dans la mesure où je peux le comprendre, c'est-à-dire assimiler des éléments de sa culture. Et en échange, je lui transmets des éléments de ma culture. Mais il peut y avoir dans cette organisation un calcul d'intérêt, dans la mesure où il y a un intérêt mutuel bien compris. Et c'est compliqué, puisqu'il n'y a pas de conflit à ce moment-là, mais le conflit reste latent, c'est très fragile. Si j'attends de l'autre de le comprendre pour l'accueillir, que se passera-t-il au moment où je ne le comprendrai plus ? Alors l'acculturation se fait de manière mécanique, mais dans des phénomènes comme ceux de la migration, nous ne sommes plus dans cet horizon-là. Et d'ailleurs, ça peut poser quelques difficultés qui ont été reconnues par la philosophie, puisque ce rapport à l'autre peut sembler beaucoup plus généreux. C'est une vision cosmopolite de l'humanité, c'est-à-dire que nous arriverions à nous réunir sous l'égide d'une humanité unique, rationnelle, fédérée au nom d'un progrès linéaire, et que la collaboration ou la co-inspiration de tous les êtres humains permettrait de générer un bien-être collectif. Et l'idée est parfaite. C'est un petit peu ce qui s'est passé dans l'esprit des Lumières et des encyclopédistes, mais on pointe là une difficulté. Par exemple, un philosophe anglais comme Burke, au moment de la Révolution française, eh bien, regardait les droits de l'homme d'un œil un petit peu, mais ose dire qu'il y a des droits de l'homme. Puisque s'il y a des droits de l'homme, les pays qui ne souscrivent pas aux droits de l'homme, eh bien, ne font pas partie de l'humanité. Donc tout État qui ne reconnaît pas les droits de l'homme ne serait pas un État légitime. Et en tant que tel, il est un ennemi de la France. Ce que disait Burke, juste après la Révolution française, c'est qu'un jour, les Français auront un esprit colonial et que cet esprit colonial se répandra sur la terre. Ce qu'on appelle un visionnaire. Autre paradoxe, ces temps-ci, on parle beaucoup de la tolérance. C'est-à-dire que c'est celui que je dois tolérer parce qu'il peut m'apporter énormément de choses, mais dans quelles limites ? Le mot tolérance, en latin, c'est assez simple. Tolérer, ça veut dire je supporte. Je te supporte, ça va. Je ne vais pas te taper dessus parce que tu peux encore m'apporter des choses. Mais surtout, ça génère un paradoxe. C'est-à-dire que je vais m'autoriser à dire que je tolère les personnes dans la mesure où elles-mêmes sont tolérantes. C'est-à-dire que je ne vais pas tolérer ceux qui seraient dans un rapport d'intolérance. Et c'est paradoxal, hein, c'est un antilogisme, ça ne fonctionne pas. Si on reprend le texte de Lévi-Strauss sur l'acculturation, ça pose également une difficulté, puisque dans le même texte, il dit « qu'est-ce que c'est qu'un barbare ?» Mais il le dit. C'est-à-dire que Lévi-Strauss dit « un barbare, c'est celui qui croit à la barbarie », c'est-à-dire que je donne une définition du barbare, donc je crois à la barbarie, donc je suis moi-même un barbare. Et si vous me jugez en tant que barbare, vous êtes barbare vous-même. Alors, je ne pensais pas quelqu'un d'idiot, il doit faire exprès de nous mettre dans ces paradoxes ou dans cet antilogisme de cette espèce de fusion planétaire et universelle des cultures. Ça peut être un rapport à l'autre. Et il peut apporter sûrement des choses assez fécondes. Mais le rapport à l'autre n'est pas que ce rapport. Le troisième degré, si on veut, ou la troisième option du rapport à l'autre, c'est que l'autre, ce n'est pas celui que je peux réduire à un champ de connaissances. C'est-à-dire que celui qui n'est pas moi, je ne peux pas le connaître. Il reste fondamentalement incompréhensible. Alors, quelle relation je dois avoir à cet autre qui est incompréhensible ? Avant de rentrer un petit peu dans le concept, je vous donne juste un petit exemple. Les Grecs anciens avaient une drôle de tradition, si on veut. Ils partaient du principe, et pour le coup c'est symbolique, que Zeus prenait souvent la forme d'un mendiant. Tout Grec accueillait les mendiants dans son foyer, parce qu'il avait peur de chasser l'autre et de chasser un dieu en même temps, et d'en subir les foudres. Ça, c'est pour la lecture mythologique. Mais il y a une lecture sociale beaucoup plus profonde. Puisque lorsque le Grec accueille le mendiant dans son foyer, tout d'abord, il ne lui demande pas qui il est. Interdiction de demander le nom. Parce que lui demander son identité, c'est déjà écraser son altérité. C'est en faire du connu. C'est me comparer à lui. Je ne lui demande rien. Je le nourris, je lui offre le plus beau fauteuil, la plus belle des nourritures. Et une fois qu'il est qui il est, et de raconter son histoire. Et quand il commence à raconter son histoire, je vois bien qu'il vient d'ailleurs. Et comme je sens sa profonde altérité, que je n'ai pas interrogée au début, eh bien c'est mon foyer qui s'éclaire. C'est-à-dire que je me sens véritablement chez moi que si j'ai accueilli l'autre dans toute mon altérité. C'est ce que les Grecs appellent le cosmos, c'est-à-dire un monde habitable, organisé et beau. On ne peut le sentir comme tel que si on accueille l'altérité de l'autre sans question. Imaginez qu'on fasse entrer les gens avec un discours qui serait de cette nature. Américain, venez en France, vous serez des partenaires économiques. Toi, qui parles déjà français, viens en France. Où est l'autre dans cette histoire ? Et si je n'accueille pas cette altérité, eh bien je n'aurai pas de rapport à mon identité. Et comme dirait si bien Sartre, je me digérerai lentement dans une moite intimité gastrique. C'est l'entre-soi, bien entendu. Quelqu'un comme Lévinas irait encore plus loin dans cette idée. C'est-à-dire que cette frontière ou cette séparation entre moi et l'autre ne doit pas être tenue intacte. L'expression qu'il emploie, c'est « je suis l'otage de l'autre ». C'est-à-dire que quand il me regarde et que je ne l'interroge pas, en fait, il m'interroge. Et je sens que celui qui est face à l'autre, c'est moi. Il me pose une question et je m'en sens responsable. Et quand je suis responsable, qui répond ? C'est moi, c'est pas vous, c'est personne. Et quand je peux dire dans une situation, c'est moi, alors c'est bien moi. C'est-à-dire que je me plombe d'une existence beaucoup plus authentique. Par contre, si je demande à l'autre déjà qui il est avant qu'il soit là, ce n'est pas moi qui parle. C'est un peu tout le monde. Proprement parlé, je n'ai pas d'identité. Donc, à quoi servent les frontières? Ce n'est pas une réalité physique. Ce sont plutôt des enjeux de relation avec l'altérité. Ça peut être la constitution d'un soi sur le rejet d'une partie de l'humanité, qui est légitime et que nous faisons tous, hein, quand on cancane sur les gens que l'on n'aime pas. Cela peut être des éléments d'acculturation qui permettent effectivement un progrès des connaissances et des techniques. Mais ça peut être aussi une manière, à condition qu'on n'interroge pas l'autre, eh bien, de fonder son identité et de peser plus authentiquement dans son existence humaine. Si vous avez des questions par rapport à ça.
Cette présentation, un soupçon provocante, dont je ne doute pas qu'elle va faire émerger des questions ou des réactions dans la salle. Voilà, c'est ça. Magali me dit vite la deuxième question, parce que la première est toujours la plus compliquée à poser.
Je peux poser la première question, si vous voulez.
Merci, Yann.
Ça durera la deuxième. La philosophie, c'est de rester dans une certaine neutralité. Et pour le coup, là, j'ai fini mon propos. Et on peut se demander quel est le lien avec les migrants et la lecture que j'ai pu vous donner des frontières. Vous voyez que la frontière, ça permet de tracer cette séparation, alors que l'humanité vit plutôt sur une épaisseur. Et on fait ce trait de séparation pour que les individus basculent d'un côté ou de l'autre, c'est-à-dire ils rentrent dans le moi ou ils sont rejetés dans la périphérie de l'autre. Et le migrant a quelque chose d'assez poétique, si ce n'était connecté à un vécu, puisque le participe présent substantivé, c'est comme ça que ça marche, était quelque chose d'assez étonnant, puisqu'il va rester en errance perpétuelle sur la frontière. Autrement dit, on ne l'intègre pas dans le monde du moi, on ne l'intègre pas non plus dans le monde de l'autre. Si au moins on le rejetait, ce serait clair. On ne le rejette même pas. C'est-à-dire qu'on l'extrait complètement du champ de l'humanité. Une philosophe comme Hannah Arendt, qui avait dû fuir l'Allemagne nazie, avait eu ces mots, arrivée aux États-Unis. Le pire, c'est pas d'être exilé, le pire, c'est d'être abandonné par les droits humains et d'être de nulle part. Alors probablement que le migrant fait partie de ces personnes qu'il est assez difficile de qualifier. C'est un mouvement, ce n'est pas des identités. Voilà, c'était ma réponse à ma première question.
Mais il y a une deuxième question, donc.
Bonjour. Oui. Moi, je me pose un peu la question. Donc là, je ne suis pas sûre d'avoir tout à fait compris le propos par rapport à l'altérité. Mais donc là, on parle en termes d'individus. Et donc, concrètement, aujourd'hui, dans nos rapports, nous, en tant que... Je pense qu'on est à peu près tous dans nos rapports avec les personnes migrantes qui arrivent dans nos bibliothèques. Voilà, si on est tous bibliothécaires. Donc, on a ce rapport donc, d'altérité, donc de considérer que la personne est un individu à part entière, au même titre que nous, grossièrement. Mais donc... disons qu'il manque la dimension de rapports sociaux, de domination et de rapports mondiaux. Enfin, oui. Je ne sais pas si je vais réussir à l'expliquer plus clairement, mais
ouais, moi ça me semblait clair. Oui, oui. C'est-à-dire, oui, c'est sûrement le discours philosophique, celui de Lévinas, par exemple, ou de la tradition grecque, ou hébraïque. C'est sur un plan individuel. Ce n'est pas quand je parle de l'homme, mais quand je parle des hommes. C'est-à-dire, non pas ceux auxquels je pense, mais ceux avec qui je suis dans une relation de face à face. Et quand on est dans une relation de face à face, bien entendu, j'ai un rapport beaucoup plus pur à l'altérité. C'est-à-dire que j'accepte que l'autre soit un incompréhensible et je suis prêt à m'interroger moi-même dans ma propre existence, mais dans ce rapport de face à face. Le philosophe dont je parlais, Lévinas, accorde une place véritablement fondatrice au visage. C'est-à-dire qu'on ne peut avoir de relation d'altérité ou de relation éthique à un individu que si on voit son visage. Alors après, dans les autres relations sociales, il n'y a pas que des relations de droit, il y a des relations rationnelles ou des relations de connaissance, où là, il n'y a pas d'individu à proprement parler et pas de face à face. Et c'est plutôt la deuxième option de l'acculturation. Et dans ces situations-là, où on n'a pas forcément d'obligation d'avoir un rapport qui soit pur à l'altérité. Autrement dit, là techniquement, je ne crois pas qu'il y ait de migrants ici, on est plutôt dans ce rapport de transmission de connaissances et pas dans ce rapport de face à face par rapport aux personnes concernées. Mais. La distinction que ferait le bonhomme Lévinas, c'est-à-dire qu'on a un rapport rationnel à l'autre, où on a tendance à le digérer, et il y aurait un rapport qui n'est pas rationnel, mais qui est un rapport éthique, de face à face à l'autre, c'est-à-dire, tu ne m'apporteras rien, je deviens ton otage, tu me précèdes, c'est toi qui m'interroges dans ma vie, et je deviens responsable de toi. Lui, il appellerait ça la sollicitude.
D'autres questions ou réactions ?
Merci pour cette présentation. Moi, je m'interroge du coup, vous parlez de sollicitude, et alors il y a un terme qui revient beaucoup pour la question des migrants, l'accueil des migrants, etc., c'est la bienveillance. Mmh. Quelle place vous lui donnez dans cette philosophie ?
Dans la tradition, le découpage, je vais peut-être mettre du micro, ouais. Dans le découpage que j'ai donné, enfin c'est pas moi qui l'ai donné, c'est plutôt l'histoire de la pensée. Tout ce qui est sollicitude et bienveillance, plutôt dans cette troisième catégorie, c'est-à-dire c'est lorsque j'ai une relation à l'autre qui n'est pas écrasée ou déterminée par mes propres préoccupations. C'est-à-dire que la sollicitude, ce n'est pas essayer de comprendre l'autre, ce n'est pas se mettre à sa place, c'est comprendre qu'il y a une séparation irrémédiable. Et une fois que je suis dans ce rapport l'autre m'interroge en tant que personne, c'est quel rapport je dois avoir avec une personne avec qui je n'ai rien à voir finalement, et la réponse en tout cas avec cette histoire de bienveillance et de sollicitude, c'est que le premier rapport que nous aurions par rapport à l'autre serait des rapports de sollicitude. Vous avez un philosophe dont on a parlé récemment pour des raisons politiques qui est Paul Ricoeur, et qui emploie énormément ce terme, c'est que le premier rapport que j'ai avec n'importe qui, quand c'est en face à face, c'est un rapport de sollicitude. C'est-à-dire que je suis prêt à rabattre énormément de choses dans mes habitudes, dans mon identité, dans ma quotidienneté, dans ma familiarité, pour vous venir en aide ou faire en sorte de vous respecter. Mais alors, la question, c'est peace. C'est comme ça qu'en serait Lévinas ou Ricoeur. C'est pas du sacrifice, puisque quand je vois que je respecte l'autre dans son altérité, eh bien, je peux me récupérer dans mon identité. Et dans mon identité, alors, je peux être celui qui est heureux, je peux être le jouisseur, celui qui prend plaisir dans l'existence. Autrement dit, je peux avoir une vie égoïste beaucoup plus authentique. Ouais. Alors que celui qui est dans le rejet de l'altérité n'a pas d'altérité. Donc, il se prive même de cette joie de l'existence égoïste. Donc, si vous voulez égoïste, accueillez l'autre. C'est un peu ça l'idée. C'est clairement la lecture, je me sens plus pleinement chez moi que si j'avais laissé les portes fermées. Alors c'est pour ça qu'on met des portes aux bâtiments. Les bâtiments n'en ont pas toujours eu. C'est pour les ouvrir ou les fermer.
D'autres réactions ou questions ?
Bonjour et merci pour votre présentation. Jusqu'ici, vous nous avez beaucoup parlé d'une forme de dualité qui serait nous et l'autre, en tout cas dans le regard de nous et de l'autre. Dans le quotidien de ce qu'on peut rencontrer en bibliothèque, on peut arriver à une situation un peu différente qu'une situation de médiation où en fait l'autre, c'est-à-dire un groupe de migrants, n'est pas un groupe uniforme, en opposition à nous, bibliothécaires, qui serions une norme, peut-être parce que français. Et dans ce cas-là, notre rôle n'est pas nécessairement une situation d'accueil, mais il peut être aussi de médiation, un peu du vivre ensemble, où notre identité serait aussi mélangée que. Alors, je suis un peu plus précis, parce qu'en fait, le critère d'identification peut être modifié. Dans un groupe très varié de migrants, il peut y avoir quelqu'un qui nous identifie, nous, français, comme faisant partie du même groupe que d'autres communautés européennes, en se disant, ben, les Espagnols, Italiens que je vois dans ce groupe ben, sont un peu comme le bibliothécaire français parce qu'ils sont, eux, européens. En fait, ces critères sont infinis. On peut aussi choisir des catégories sociales. Et donc, ma question, c'est quand on n'est pas tellement dans une situation parce que ça peut arriver qu'on reçoive pour X raisons un groupe uniforme qui viennent tous du même pays ou de la même situation, donc on serait là dans la dualité eux et nous, mais quand on doit être dans la médiation autour d'un groupe qui lui-même est interculturel, comment se positionner en fait?
Oui, c'est-à-dire que ce dont vous parlez, ce sont plutôt des intrications ou des emboîtements qui sont de type rationnel, c'est-à-dire qu'on fait des exercices de catégorisation, et là c'est vrai que l'exercice peut se prolonger à l'infini. C'est-à-dire que c'est pour constituer un nous ou un collectif. Et ça c'est un exercice. Après, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, quand on est dans la réalité du face-à-face humain et dans la réalité des visages, il y a autant de variétés où je dois avoir autant de sollicitude pour votre altérité ici, là, avec vous, qu'avec un parterre composé exclusivement de migrants. C'est-à-dire que du point de vue éthique, que vous veniez d'ici ou d'ailleurs, ou que vous soyez dans telle ou telle catégorie rationnelle, ça n'a aucune importance. C'est-à-dire que là, on ne se structure plus dans un rapport « nous » et « eux », on est plutôt dans un rapport « je » et « tu ». Et que vous soyez de tel ou tel horizon, que vous soyez blanc, que vous soyez cadre ou ouvrier, parce que justement, je ne vous interroge pas. J'ai l'occasion de faire, c'est pas pour parler de moi hein, quand même, j'ai l'occasion de faire de la philosophie avec des enfants, assez régulièrement, et même des tout petits, à partir de la fin de la moyenne section. Et on pourrait se dire que je suis un adulte, ce sont des enfants, et donc il y a des différences catégorielles qui sont maximum sur le plan rationnel. Et pourtant, quand je parle avec un petit de 5 ans, 5 ans et demi, tout ce qui relève du catégoriel s'effondre complètement. Je suis face à un individu dans toute son altérité, il a de la sollicitude à mon égard, peuvent se dérouler. Autrement dit, l'écart d'âge, de statut, de formation, n'est plus du tout opérant. Autrement dit, avec un petit, on peut véritablement parler, c'est même pas d'égal à égal, parce que ça c'est encore rationnel, mais de trouver en l'enfant son maître.
Allez, une dernière question.
Oui, vous parliez de l'inconfort que vous aviez avec le mot migrant tout à l'heure, qui était un rejet hors de l'humanité. Qu'est-ce qu'on pourrait dire?
Il n'y a rien d'autre à dire, parce que nous avons linguistiquement ou sémantiquement constitué ce groupe de population. Ce n'est pas rejeter le mot, la solution. Si c'est un problème. Hein. En tout cas, ce n'est pas un problème de mots, c'est un problème de catégorie humaine que nous avons créée, et le mot est venu désigner cette catégorie humaine. C'est-à-dire qu'il y a une frange invisible de personnes qui glissent de manière indéfinie le long des frontières ou qui restent s'agréger au bord des murs. Enlever les frontières, enlever les murs, vous n'aurez plus besoin du mot de migrant. Ce qui serait changer par rapport notre rapport à cette population qui est en voie, le terme est peut-être pas élégant, mais d'invisibilisation, un peu comme les personnes que l'on met dans les maisons de retraite ou dans les mouroirs, les personnes que l'on emmène dans des environnements carcéraux, la précarité que l'on encage en périphérie urbaine ou dans la France moche. Si on changeait déjà le terme, ça changerait. Ce processus d'invisibilisation. Alors, est-ce qu'il faut accueillir tout le monde? C'est même pas ça le problème. Il faut avoir des rapports clairs et identifier l'altérité. Soit on intègre, soit on rejette sur des frontières. Et sûrement que ça nous interroge sur notre relation à l'humanité. On ne prend pas parti. Alors ça, je sais pas pourquoi. Ouais.
Il y a quelques années, un très beau sujet a été proposé au concours de l'éducateur des bibliothèques. La culture a-t-elle besoin de frontières? En d'autres termes, les frontières sont-elles des conditions de possibilité de la diversité culturelle? Je voulais savoir ce que vous en pensiez.
Je vais faire court. Alors, vous repassez le concours avec moi? Non, une détermination, on va dire, une séparation qui a pu être proposée par Kant. Les bornes, c'est ce au-delà de quoi on ne peut pas aller. Une limite, c'est en deçà de quoi. Les limites. Peut-être l'autre micro. Je suis ni comme ça. Les limites, c'est ce en deçà de quoi il y a tout un monde qui est possible. Autrement dit, si vous ne mettez pas, non pas des bornes, c'est pas ça le problème, parce que les bornes, ça frappe d'interdit. Mais si vous tracez des limites, eh bien, vous rendez tout un champ de possibilités accessible ou actif. Autrement, de culture sans limitation. Ça a d'ailleurs été, j'en parlais tout à l'heure, le rêve utopique et dangereux du cosmopolitisme universaliste. Puisque avec cette option-là, vous écrasez complètement l'idée même d'une altérité. Et s'il n'y a pas de relation à l'autre, il ne peut pas y avoir de relation à moi. Dans la culture mondialisée, aux portes de laquelle nous sommes, eh bien, nous sommes véritablement, à mon sens, dans le piétinement de cette altérité. Et ce sont les éléments d'une culture véritable qui sont peut-être pas menacés, mais en tout cas qui... Quand vous aurez une culture homogène, cette fameuse acculturation. Et ça, c'est le paradoxe du cosmopolitisme. Pour avoir le plus de brassage, il faut s'ouvrir au maximum. Mais si vous ouvrez au maximum, vous risquez des phénomènes d'homogénéisation. Et quel est l'intérêt d'une culture homogène ? Demandez-le aux Inuits ou aux Indiens d'Amazonie, ils vous en diront des choses, ou peut-être le sociologue ou l'ethnologue pourra en parler mieux que moi.
Bon, alors d'ailleurs, là, il y a une demande. Je voulais juste, par rapport à la question du cosmopolitisme, dire aussi que ça dépend de l'usage politique qu'on en fait. Il faut politiser la question, parce que le cosmopolitisme décadent de l'entre-deux, j'entends, je comprends et j'adhère. Partie à ce que vous dites, et en même temps, je me méfie d'un discours comme celui-là, parce que c'est aussi une rhétorique qui était présente dans l'entre-deux-guerres et qui l'est encore aujourd'hui d'une autre façon. Faire méfiance avec l'usage politique du terme cosmopolitisme.
Alors je ne sais pas si le cosmopolitisme dont je parle et les discours nationaux font partie de la même tribu, si on veut. Mais je vais même mettre les pieds dedans, puisque cette logique de l'enracinement ou le rejet du cosmopolitisme, dont on, voilà, le foyer à partir duquel peut se déployer véritablement une identité propre. Simplement, la grosse différence entre le discours nationaliste, ou xénophobe, ou raciste, c'est qu'il n'y a pas de relation à l'altérité. Il rejette le cosmopolitisme parce qu'il rejette simplement un rapport à l'altérité, parce qu'ils ne sont sûrement pas très à l'aise par rapport à leur identité. Alors que se demander dans quelle mesure une percée cosmopolite ne rendrait pas les discours qui est un petit peu différent, parce que justement ce discours cosmopolite est un refus de l'altérité. Autrement dit, par cosmopolite peut-être ce serait plus clair, mais peut-être plus réducteur si on parle d'une économie mondialisée, capitalistique, où on est dans des rapports. C'est du nationalisme à très grande échelle, peut-être plus souvent.
Voilà, peut-être une toute dernière remarque pour qu'on puisse avancer. Merci.
C'était juste pour faire écho à la question qui vient d'être posée. En politique, souvent, on parle d'assimilation de personnes. La différence, c'est peut-être là, c'est qu'on est plus à intégrer les personnes que les assimiler, c'est-à-dire réduire à néant leur culture et dire que voilà, les assimiler dans cette société, c'est nier leur culture, leur propre culture et leur provenance, ce qui fait leur identité propre. Voilà, juste... Je voulais faire cette remarque. On joue beaucoup sur les mots, mais en fait, c'est la raison. C'est là le sens de toute notre journée, peut-être. Les mots.
Une réaction, Yann ? Une dernière réaction à cette
remarque ? Oui, ce glissement sémantique entre une assimilation, c'est le rapport rationnel à l'autre, où je l'interroge par rapport à ce que je sais. Tout à l'heure, vous parliez de cet autre plus ou moins folklorisé, dont je ne retire ce que j'en attends. La belle affaire. Ouais. Ou alors un tel qui a un tel prénom devra prendre un prénom francisé. Quel est l'intérêt d'accueillir l'autre si c'est pour faire ça ? Et l'idée d'intégration protège un petit peu cette idée de préserver ce que l'autre comporte comme altérité. Et sûrement que ça laisse davantage de champ libre à l'expression identitaire, avec tous les risques que ça comporte et que là, qui pour le coup ne sont pas nationalistes. Des pays vont même plus loin en parlant de piliers ou de chapelles communautaires. C'est-à-dire qu'on ne demande même pas aux personnes de s'intégrer, mais de vivre en coexistence ou en cohabitation avec les autres cultures, en laissant une acculturation mécanique opérer.
Pour cette intervention et cet échange. Merci beaucoup.